France Musique.
Merci Lionel Esparza.
Arnaud Merlin, le portrait contemporain. France Musique.
Aujourd'hui,
Patrick Burgand.
Bonsoir à tous, le portrait contemporain, c'est chaque mercredi une heure de plongée dans l'univers d'un créateur d'aujourd'hui. Et ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir Patrick Burgand, compositeur et par ailleurs professeur à l'Université de Toulouse. Formé au Conservatoire de Paris, puis pensionnaire à la Casa de Velázquez à Madrid, Patrick Burgand construit depuis 25 ans une œuvre remplie d'une lumière spirituelle qui fait éclater les catégories usuelles entre sacré et profane. Dans un respect absolu des textes qu'il met en musique, Patrick Burgand aime à suspendre le temps de la contemplation, mais il sait aussi jouer de l'ambiguïté sonore en orchestrant les voix, comme il sait aussi vocaliser les instruments. Auteur d'un abondant catalogue où les pièces vocales certes se taillent une part prépondérante, il nous rend visite ce soir à l'occasion de la parution en disque de son Requiem. Une heure avec Patrick Burgand, c'est notre plaisir du soir sur France Musique.
Thank you.
confondu les maudits aux flammes âcres assignées, appelez-moi avec les bénis. Telle est la traduction de ce confutatiste extrait de la séquence du Requiem de Patrick Burgan avec en soliste Marion Delcourt, mezzo-soprano, Louise Marcilla, clarinette, Paul Lamarque, saxophone, Fabrice Billon, violoncelle, Lionel Lefourny, percussion, ainsi que Jean-Christophe Garnier et Vincent Grappi à l'orgue. Et c'est le chœur Microcosmos dirigé par Loïc Pierre. C'est une première ce soir, Patrick Burgan, puisque le disque sort dans 2 jours chez Clart. C'est une pièce relativement ancienne que ce Requiem. Il a 12 ans, il sort aujourd'hui au disque.
Oui, effectivement. Oui. C'était en fait une commande qui m'avait été passée pour la commémoration de la chapelle de Ronchamp du Corbusier. Pour le cinquantenaire, c'était donc en 2005, et donc c'est vrai qu'on peut parler un petit peu de la commande parce que c'était particulier, donc l'ensemble instrumental un peu particulier d'ailleurs qui est dans ce Requiem, un peu hétéroclite dirons-nous, était dû évidemment au commanditaire qui m'avait demandé ça. C'était écrit pour un chœur amateur, ça il faut le signaler, parce que c'était une véritable prouesse. L'œuvre est quand même assez difficile.
C'est professionnel, hein.
Alors eux, voilà, absolument. Donc, mais ça a été créé donc par un chœur amateur qui a beaucoup travaillé. Et c'est surtout que le cahier des charges, parce qu'on vient d'écouter le confutatiste, donc j'en profite. Le cahier des charges était, c'est celui qui m'a commandé l'œuvre, voulait revenir à l'état primal de la voix, au fondement, et donc me donner des idées sonores. Et notamment, il me parlait du rire du singe qui le fascinait, parce que les singes rient en inspirant, expirant, alors que nous, on expire seulement, et comme ceci. Et alors, il me donnait comme ça des exemples sonores, et évidemment, c'est moi qui ai choisi le texte du Requiem, avec toutes les folies sonores qu'il m'a données. J'ai trouvé dans le texte fouillé du Requiem, un petit peu halluciné, effectivement, matière à développer toute cette imagerie. Et le confutatiste, évidemment, est donné en inspiration-expiration, comme le rire du singe, comme quoi, voilà, ce sont les forces des images sonores, parfois, qui ont des finalités un peu inattendues.
Le prétexte pour notre rendez-vous ce soir, c'est la sortie de ce disque, mais c'est aussi l'occasion de revenir sur l'ensemble de votre production. Alors, votre première œuvre pour ensemble vocal a cappella, c'était la Puerta de la Luz en 1994, sur des poèmes de Machado et de Garcia Lorca. Sylviane Falcinelli dit qu'elle a imprimé un tournant décisif à votre écriture et qui a rejailli après coup sur votre travail orchestral et instrumental. C'était l'inspiration première, c'était les textes de Lorca et de Machado?
Oui, les textes sont pour moi un moteur essentiel en fait. Donc lorsqu'il y a musique vocale, tout part des textes en fait. Toutes les idées, je les prends dans les textes. Et ils ont effectivement été un stimulant assez extraordinaire par la force. Bon, j'étais à la Casa de Velázquez à cette époque-là, hein. Donc c'était une façon, je voulais vraiment prendre des poètes espagnols pour verser ma dîme, si vous voulez, l'hospitalité qui m'était faite. Et donc, bon, j'ai été conquis par... Je voulais surtout des textes qui tournent autour de l'enfance et de la mort. C'est des thèmes qui sont un peu récurrents chez moi. Et là, voilà, des textes fantastiques. Disons, le contenu sémantique, mais aussi la force phonétique. Parce que parfois, on fait un petit peu... certains compositeurs vont chercher leur inspiration plutôt dans l'un ou l'autre. Moi, je pense que c'est la conjonction des deux. D'ailleurs, en poésie, on peut difficilement séparer la puissance sémantique de la force phonétique. De toute façon, les deux sont imbriqués. Et donc, les textes ont été évidemment un moteur évident, bien sûr.
Thank you.
Un extrait de la Puerta de la Luz de Patrick Burgan par l'ensemble Musique à 13 sous la direction de Roland Herrabédian. C'est très beau ce qu'on vient d'entendre, Patrick Burgan, mais le texte évoque quelque chose d'assez difficile.
Oui, c'est très très fort. En fait, c'est la petite chanson de l'enfant qui n'est pas né. Donc, comme je vous ai dit que tous les poèmes de la Puerta de la Luz tournent autour de l'enfance et de la mort, mais là, c'est la mort qui précède la vie, en fait, puisqu'il est là, il attend, il dit « sans bras, comment est-ce que je pourrais pousser la porte de la lumière ?» Donc, on l'a oublié, sa mère l'a oublié, sa mère a déjà les cheveux blancs, donc il ne naîtra jamais, et il dit qu'il est désemparé parce qu'en fait, il ne connaîtra pas la lumière, il ne connaîtra pas la vie. Et justement, ce qui est un peu, j'ai appelé l'œuvre La Puerta de la Luz parce que les autres poèmes nous signifient que peut-être la lumière n'est pas non plus de ce côté. En fait, la porte, on ne sait pas exactement de quel côté se trouve la lumière. Voilà. C'est toute l'ambiguïté. Ce sont des poèmes profanes, mais pour moi, c'est une œuvre sacrée, bien sûr, parce qu'elle appelle quand même des réflexions spirituelles assez fondamentales.
On dit souvent que composer, c'est l'art du temps. Dans votre musique, il y a souvent des aspects très contemplatifs. On ne s'étonne pas peut-être de retrouver le poème de Lamartine sur le lac, précisément, que vous faites chanter dans une voix féminine.
Oui, absolument, c'est vrai. Parce que celle qui prend vraiment la parole dans ce poème, c'est Elvire, en fait. Elle dit « autant suspend ton vol », c'est là qu'il y a les guillemets. La voix du poète est partout. Le poète, c'est le violoncelle. On va pas entendre, je crois, le début de l'œuvre là, mais
on entend la fin. Oui.
Voilà, parce que Lamartine commence son poème par ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages. Donc, il dit, comme je vous ai dit, j'attache une importance extrême au texte, donc il me guide même dans la structure. Et quand on dit ainsi toujours poussé, un peu comme ça, dans les pièces du théâtre classique où on arrive toujours au début du premier acte, on est déjà dans le cœur de l'action avec des ainsi, etc. Et donc, il faut absolument un long prélude instrumental, puisque la soprano dit ainsi. Donc l'œuvre commence avec un énorme solo de violoncelle, qui est la voix de Lamartine lui-même. Et ensuite, la soprano nous dit ainsi, et ensuite elle pourra chanter elle-même « Autant suspend ton vol », etc.
C'était une commande d'ailleurs de Radio France, créée en 2001 au Châtelet. On l'écoute ici dans la voix de...
Et Marilyn Fallot, justement, Fallot. Je voulais parler parce qu'elle est décédée malheureusement, elle est disparue très jeune. Et donc je pense que cette diffusion avec le Philharmonique...
C'est-à-dire avec Inbal qui dirigeait.
Ouais, c'est ça. Et donc, voilà, c'est un souvenir. En même temps, je lui rends hommage à cette chanteuse qui, en plus, oui, avait fait une véritable performance. Je me souviens, elle avait remplacé Véronique Gens. Véronique Gens devait créer le lac et elle était souffrante. Une semaine avant, Marilyn Fallot, au pied levé, a pris le risque de créer cette œuvre. Et donc, voilà, c'est un hommage que je lui rends ce soir.
Thank you.
La fin du lac de Patrick Burgan avec la voix de Marilyn Fallot et l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Eliaou Inbal. C'était en 2001 au Théâtre du Châtelet à Paris. Alors le lac, évidemment, c'est Lamartine, mais comment est-ce qu'on entre en contact avec les textes, par exemple, du plaisir originel d'Edmond Haraucourt, Patrick Burgan, ça c'est moins connu.
C'est vrai, ils m'ont donné d'ailleurs du fil à retordre. L'historique, c'est que, parce que j'ai un grand répertoire de musique érotique, de textes érotiques dans ma musique, parce que je trouve qu'il y a là aussi une grande inspiration, même au niveau sonore. Et c'est Rachid Saphir qui dirige donc...
Les jeunes solistes.
C'était les jeunes solistes avant, voilà, maintenant ça s'appelle Soliste 21. Ouais. Et il m'avait demandé, il faisait des pièces un petit peu, voilà, un peu pesantes, un peu austères, etc. Il m'avait dit, oh, si tu pourrais m'écrire, parce que j'avais fait une pièce qu'il avait redonnée plusieurs fois, qui s'appelait Soleil, qui éclatait, etc. Très dionysiaque. Il m'avait dit, il faudrait que tu me fasses quelque chose quand même qui soit lumineux, pétillant. Bon, alors j'avais cherché et j'avais trouvé des extraits sur un bouquin de Pauvert sur l'anthologie de la littérature érotique de un certain Cyr de Chamblay, c'était le Cyr de Chamblay, qui avait écrit dans le Jardin d'Éden, Adam et Ève, qui découvraient leur anatomie respective, etc., comme deux petits enfants qui jouent à touche-pipi. Mais c'était juste un petit extrait. Oh, je me suis dit, il faudrait que je trouve l'intégrale. J'ai cherché, c'était difficile. Puis à l'époque, là, Internet était moins facile qu'aujourd'hui. Et donc, j'ai finalement trouvé que ce texte était dans l'enfer de la Bibliothèque Nationale. Parce que ça a été licencieux, ça avait été édité en Belgique. Et donc, il a fallu que j'aille me le recopier au crayon, évidemment. Impossibilité de sortir ni de photo copier dans l'enfer de la bibliothèque. J'ai recopié tout ce texte, je l'ai mis en musique et c'est en fait une cantate. C'est parce que Edmond Haraucourt, de son vrai nom, qui éditait tout ça sous le nom du Cyr de Chamblay, a voulu concurrencer Hugo, Victor Hugo.
Mais c'est la légende des sexes,
exactement, en disant que Hugo était quand même passé à côté de l'essentiel et que lui faisait la légende des sexes. Donc comme Victor Hugo, des origines de l'homme jusqu'à aujourd'hui, il nous fait un descriptif un peu de l'humanité au-dessous de la ceinture. Et là, il s'agit de Adam et Ève dans le Jardin d'Éden. Et j'ai donné ce titre, Le plaisir originel, évidemment, puisque c'est le premier acte d'amour de l'histoire de l'humanité.
Alors dites-moi, parce qu'ils sont deux, Adam et Ève, et là, ils sont sept voix solistes. Alors...
Ah, mais c'est ça la magie, justement, de la transmutation sonore. C'est qu'il se passe, voilà, Adam, c'est parfois trois voix d'homme. Ève, ça peut être deux voix de femme. Tantôt, ils sont solos. C'est toute une, comment dire, une sorte de tissage, si vous voulez, vocal, a cappella, bien sûr, de ces sept voix solistes qui fait ce petit opéra, on pourrait dire, cette petite scénette, voilà, que j'ai appelée d'ailleurs Mystère hystérique.
Thank you.
Un extrait du plaisir originel sur un texte de Edmond Haraucourt par Patrick Burgan avec les jeunes solistes sous la direction de Rachid Safir. Là, effectivement, on voit bien ce qui se passe, Patrick Burgan. Vous ne détestez pas certaines formes de figuralisme, un peu comme on faisait dans la musique de la Renaissance?
Oui, tout à fait. Parce que dans le figuralisme, il y a aussi des idées sonores qui viennent. Quand on prend l'image et qu'on la transfigure de manière sonore, on a des idées qu'on n'aurait pas eues si on n'avait pas eu ces images, c'est certain.
On a beaucoup écouté de musique vocale. Vous avez aussi signé des partitions purement instrumentales. Je pense à cette série pour l'abréver pour France Musique. Là, on a une pièce d'une dizaine de minutes, mais séparée en 5 étapes, puisqu'on diffuse une partie chaque jour de la semaine. Alors ça tombe bien, aujourd'hui on est mercredi, donc on va peut-être se pencher sur Mercure.
Absolument.
Comment on définirait Mercure par rapport aux autres?
Mais je l'ai fait exprès, parce que j'aime toujours que, comment dire, l'histoire de l'œuvre soit liée à sa naissance, si vous voulez. Donc là, on me demande donc des pièces sur les qui doivent être créées en fait chacun des 5 jours de la semaine. Donc j'ai écrit 5 pièces qui étaient les 5 jours de la semaine.
La lune,
Mars, Mercure, ouais. Jupiter, Vénus. Donc aujourd'hui, comme on est mercredi, je pensais que Mercure avait sa place. Et donc ça a été effectivement le moteur en même temps de l'écriture parce que j'ai pensé autant aux planètes, évidemment, aux corps célestes tournoyants, que aux divinités de la mythologie, bien sûr, pour caractériser chacune d'elles, quoi. Voilà. Donc Mercure, évidemment, est extrêmement volubile, avec ses ailes aux pieds, une planète extrêmement près du Soleil, toute petite, etc. À la différence d'un Jupiter énorme qui plane et qui est imposant et un petit peu terrifiant, finalement, d'une certaine manière.
Alors on écoute ce Mercure volatile et insaisissable. Mercure, extrait des sphères de Patrick Burgan, l'Orchestre National de France, sous la direction de Pascal Roffé. C'était en 2003. Patrick Burgan, on a beaucoup évoqué la musique vocale et l'inspiration d'un texte en particulier. Pour vos nativités, deux ans plus tard, en 2005, vous avez fait appel, non pas à un texte, mais à un certain nombre de langues différentes. Alors, comment on peut travailler simultanément sur plusieurs langues? Vous avez divisé, en fait, l'ensemble vocal.
Voilà. Oui, bien sûr, ça fait partie du projet. Je voulais écrire une pièce un peu en hommage à la naissance. C'est pour ça que je l'ai appelée Nativité, avec une représentation de différents pays. Et j'ai pris des textes, certains sacrés, certains profanes. J'ai construit la pièce, en fait, c'est une pièce pour 24 voix mixtes. Donc, chacun des pupitres, soprano, mezzo, alto, ténor, baryton, basse, est à 4 voix. Et chacun a une langue différente. Donc, les sopranos ont l'italien, uniquement leur poème, les mezzos ont l'espagnol, les altos le latin, c'est un peu le cantus firmus, c'est le Stabat Mater de la nativité. On le connaît moins celui-là.
Qui est à l'alto, hein.
Ouais. Voilà, il est aux voix d'alto pour les quatre altos. Et ce Stabat Mater, en fait, c'est très beau parce qu'on connaît que celui de la Passion, mais celui-là, c'est la Vierge est debout devant son fils, mais devant, dans la crèche, quoi.
C'est le Stabat Mater Speciosa.
Speciosa, pas de droite, exactement. Ouais. Lumineuse, la Vierge, là, et pas en larmes. Et ensuite, les ténors, l'anglais, bien sûr, puisque j'ai essayé d'adapter les langues qui conviennent aux registres vocaux, bien sûr. Le baryton pour le texte français et l'allemand pour les basses, voilà. Mais ça a été un travail gigantesque. Parce que là, je m'étais fixé dans un cahier des charges, si vous voulez, un peu théorique, avant, parce qu'en général, c'est surtout les impulsions sonores, les images sonores qui conduisent à la théorie, souvent.
Oui, et puis les textes évoquent aussi des siècles différents. Pour le français, c'est Vigny, donc c'est le 19e. Pour les Italiens, c'est Giovanni Dominici, on est au 15e siècle.
Bien sûr, bien
sûr. C'est Milton pour les Anglais, ça,
tout à fait,
ça peut se comprendre aussi.
17e, tout à fait. Donc je tenais à ce que ce soit une vision des naissances à travers les siècles, finalement. Mais là où c'était très difficile, puisque je m'étais fixé ce cahier des charges un peu rigoureux, c'était de combiner ces textes. On va faire n'importe quoi. Il faut que les choses quand même se disent. D'ailleurs, l'extrait qu'on a choisi va être assez parlant de la tentative que j'ai faite. C'est que, par exemple, c'est vers la fin de l'œuvre où les voix de femmes partent toutes sur des quintes un peu en imitation. Toutes disent quando, mais en fait, il y a un quando d'abord en latin, puis le deuxième quando, il est en espagnol, et le troisième quando est en italien. Elles disent quando, mais c'est pas la même langue. Et au niveau même du sens, des situations, des moments de paix, d'apaisement, parce que c'est une pièce quand même qui dure 25 minutes a cappella et d'un seul tenant, ce qui est une véritable performance à 24 voix divisées, donc 24 voix différentes. Là, les éléments, j'avoue que c'est immense virtuose vocaux parce que c'est une pièce évidemment redoutablement difficile.
Les éléments dirigés par Joël Subiette. Un extrait de Nativité de Patrick Burgan par le chœur de chambre, les éléments sous la direction de Joël Subiette.
Le portrait contemporain sur France Musique, Arnaud Merlin.
On évoquait ce texte de Milton pour les voix anglaises. On retrouve l'inspiration de Milton dans La chute de Lucifer. Alors là, c'est un poème symphonique, mais pour trombone et orchestre. C'est pas vraiment un concerto, Patrick Burgan?
Si, c'est un concerto pour trombone et orchestre, mais je l'appelais poème symphonique, évidemment, parce qu'il y a le texte de Milton, Le paradis perdu, qui est le moteur, encore une fois, expressif, visionnaire de cette œuvre. Et en fait, pour expliquer pourquoi j'ai choisi Milton, c'est encore contingent et encore lié, comme je disais tout à l'heure, à la naissance d'une œuvre. C'est Fabrice Milichaire, le tromboniste, donc très talentueux,
magnifique, instrumentiste.
Magnifique, voilà. Quand il a gagné le concours de l'ARD à Munich, il m'a téléphoné tout de suite. Il m'a demandé un concerto. Donc il m'a commandé un concerto puisque c'est devenu une commande. Et alors, Fabrice Milichaire a la particularité d'être à la fois excellent violoncelliste, tromboniste. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. J'écris un concerto pour lui, il faut faire quelque chose avec ça. Donc j'ai cherché, je vais vous le faire court évidemment, parce que les recherches sont toujours assez longues, et j'ai trouvé le double face dans l'histoire. C'est évidemment Satan, Lucifer, l'ange préféré de Dieu, le porteur de lumière, qui tout d'un coup va passer du côté obscur de la force, vous voyez, si vous me passez l'expression. Et donc je me suis dit, voilà, là c'est fin bisé. Donc je commence, l'œuvre commence avec le violoncelle solo, en fait, le violoncelle qui est dans l'orchestre, bien sûr. On est dans la lumière, d'ailleurs le premier mouvement s'appelle Lumière, je pense que c'est ça qu'on va entendre. On est dans la lumière du paradis, etc. Et Lucifer est l'ange préféré de Dieu et ça va mal tourner. Le violoncelle va devenir le trombone. Tout le début est diaphane, ce sont des cordes. Alors on a tout début un énorme cluster un peu, c'est le fondement, c'est l'énergie globale, si vous voulez. Tout se devient transparent dans un dialogue violoncelle-violon. Et puis, le violoncelle va laisser la place au trombone. Et là, ça va commencer à se gâter, puisque tout le concerto est l'histoire, un petit peu, de la chute de Lucifer, réellement, qui va fonder son empire, en fait, son pandémonium.
On écoute ce premier mouvement avec, bien sûr, en soliste Fabrice Milichaire. Et c'est l'orchestre de la Philharmonie de la radio allemande de Sarrebruck, sous la direction de Ulrich Kern. Le premier mouvement Lumière de la chute de Lucifer de Patrick Burgan, avec en soliste le tromboniste Fabrice Milichère et l'orchestre philharmonique de la radio de Sarrebruck sous la direction de Ulrich Kern. Patrick Burgan, vous avez aussi signé une bataille. Alors là, on revient un petit peu à la conception de la musique de la Renaissance, en quelque sorte. Alors, on a écrit des batailles aussi au 18e, au 19e et au 20e siècle. Hein. Mais il se trouve que, pas très loin de chez vous, puisque vous êtes Toulousain, il y a un lieu de bataille très célèbre, 8 siècles avant nous.
Absolument, mais encore même plus près de chez moi, puisque je suis Muretin, en fait.
J'habite, vous êtes originaire de là.
J'habite à Muret même, c'est-à-dire à 25 km au sud de Toulouse, dans cette petite ville médiévale, et qui a subi, disons, il y a 800 ans, enfin, en 2013, c'était il y a 800 ans, c'était le 12 septembre 1213, une bataille vraiment extrêmement violente, un véritable massacre qui a vu la victoire de Simon de Montfort sur les troupes coalisées du roi d'Aragon, de Toulouse.
C'est les Albigeois, c'est ça?
Ça fait partie de la croisade, c'est compté dans la croisade des Albigeois, voilà, et ça a déterminé d'ailleurs la région qui aurait dû se trouver une Occitanie complètement séparée du royaume de France, et en fait, ça a très mal tourné pour ces troupes-là, qui étaient pourtant bien supérieures en nombre. On va pas ici raconter toute l'histoire, mais elle est extrêmement tourmentée, contradictoire. Enfin, il y a eu des tas de choses.
Elle est racontée dans votre œuvre.
Elle est
racontée deux fois en deux langues.
Hein. Absolument. Voilà, ça, j'y tenais beaucoup. Déjà, j'ai demandé aux sacboutiers d'être les interprètes de cette œuvre parce que je trouvais que justement les sonorités des instruments du XIIIe, XIVe siècle,
le cornet à bouquin, voilà, la sacboute, la dulciane,
la chalmie, etc. Voilà, ça donnait la dimension d'époque. Et je tenais aussi, bien que tout le monde m'en ait dissuadé chaudement à avoir le texte, parce que le texte est seulement déclamé, c'est-à-dire que le chœur qui est dans cette œuvre n'a que des vocalises, le chœur est instrumental vraiment. Et les récitants sont deux, il y a celui qui est en Languedoc et celui qui est la traduction française que j'ai faite moi-même pour qu'elle coïncide parfaitement. Et les deux disent le texte en même temps. Alors on peut penser que c'est une cacophonie épouvantable évidemment, mais non, parce qu'on comprend en général la langue que l'on possède, le français pour la plupart, et on entend les sonorités, souvent assez proches bien sûr, de la langue d'oc. Et je tenais à ça parce que au niveau, disons, poétique, nous avons celui qui a écrit cette bataille, le conteur, il est là devant nous, il nous raconte ça, il est au XIIIe siècle, et en même temps nous avons l'homme moderne qui nous dit. Parce que, évidemment, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Toutes ces horreurs, ces compromissions politiques, religieuses, etc., ça continue, ça n'a pas changé. C'était déjà au XIIIe siècle et ça sera toujours, c'est lié à l'histoire de l'humanité.
Et sur le plan musical, vous employez une sorte de teneur. Hein, vous avez repris un motif musical que l'on entendait beaucoup à l'époque.
Exactement. Oui, j'ai canalisé tout avec la fameuse chanson de l'homme armé. Voilà. Mais j'utilise aussi des ténors grégoriennes. Voilà. Pas mal de matériaux anciens, bien sûr, dans cette œuvre. Il le fallait.
Sachez en vérité quel malheur pour les hommes fut l'exil en ce jour des vertus de l'honneur et la honte abattue sur le monde chrétien. Voici ce qu'il advint. Seigneur, écoutez bien. Arrive à Muret, en splendide équipage, le bon roi d'Aragon, le comte de Saint-Gilles et ses barons, bourgeois et
pauvres, et la communauté.
Et Lì è l'esperienza e all'esercizio in batteria.
E combatto Murelli di tentore per fondarsi.
Che
della vita nuova sono più intelligenti in lavi.
Francesco l'immergé se replie au sud, grimpe dans le donjon pour s'y barricader.
C'est une trace tous visage.
Un extrait de la bataille de Muret, l'œuvre s'appelle 1213. Hein. Alors ce n'est pas un nom de code, hein, c'est tout simplement l'année de cette bataille de Muret.
C'est ça.
Patrick Burgan, les récitants étaient Renat Cherrier pour le Languedoc et Pierre-Yves Binard pour le français. Et les Sacboutiers de Toulouse avec les ensembles vocaux Scandicus et Quintessence sous votre direction. Des ensembles vocaux qui ici n'avaient pas vraiment de texte au sens propre. Hein,
non.
Patrick Burgan, c'était une façon de les traiter de manière instrumentale. Alors on ne pourra pas écouter toutes les choses relativement récentes. On aurait bien aimé vous entendre aussi avec Henri de Marquette et l'ensemble Sequenza dirigé par Catherine Simon-Pietri. Je crois qu'un disque est en préparation,
oui.
La pièce que vous avez écrite, donc ça reviendra certainement dans cette émission.
Mm-hmm.
Et puis vous avez une assez grosse activité aussi autour de l'ensemble de percussions pour lequel vous avez écrit Batèche, c'était à peu près la même année, en 2014.
Voilà, oui, Batèche c'était en 2015, peut-être l'année suivante, parce que Batèche a été d'abord donné en France, c'est ça, Batèche a été donné en France en 2015 et au Canada en 2016, puisque c'est une coproduction de l'ensemble Sixstrum de Montréal et des percussions claviers de Lyon, pour une œuvre assez conséquente. Voilà, sur.
Alors là, vous n'avez pas de texte, hein?
Non. Mais par contre, les textes sont projetés. C'est-à-dire que c'est un poète canadien, Gaston Miron, qui. Donc, j'ai eu. Ces textes ont été quand même le moteur, là, d'un poème symphonique, et aussi, où il n'y a pas de texte, mais où les textes ont infusé doucement, si vous voulez, et ont nourri, en fait, tout le développement musical. Mais ce sont 11 percussionnistes, voilà.
Avec une centaine d'instruments. Il y a eu une tournée canadienne cette année.
Voilà. Et la tournée canadienne a eu lieu en mars dernier.
Et puis, ça sera repris encore, Batèche, l'année prochaine?
J'espère. Non, pour le moment, il n'y a pas de reprise prévue, parce que 11 percussionnistes, et puis la quantité d'instruments qu'il y a. Par contre, ce qu'il y a, c'est que les percussions claviers de Lyon m'ont demandé de leur écrire la musique de leur prochain spectacle, qui s'appelle Mille et Une, et qui donc va tourner en France à partir du 23 mars prochain, où la création a lieu à Lyon, exactement au Théâtre de la Renaissance d'Oullins. Et voilà, c'est un spectacle très 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 ancré dans notre quotidien tragique. Il s'agit d'une journaliste qui est envoyée en Syrie et qui est capturée. Et elle est envoyée en se faisant passer pour une chanteuse. Et évidemment, elle est capturée, elle va être mise à mort. Et pour essayer de différer sa mise à mort, tous les soirs, elle raconte une histoire à son geôlier. Vous voyez bien le rapport. Et donc, ça fait donc une œuvre à tiroir qui s'appelle « Mille et une » et qui est évidemment assez... C'est mise en scène par... Abdelwaled Sefsaf, si je ne massacre pas trop son nom, qui est un metteur en scène très en vue et qui a donc conçu, il y a plusieurs auteurs d'ailleurs qui ont écrit les différents contes de ces mille et une nuits modernes dont je fais la musique, donc bien sûr.
En attendant ces mille et une, voici un extrait de Batèche. Thank you. extrait de Batèche de Patrick Burgan dans l'enregistrement réalisé à Montréal par l'ensemble Sixstrum de Montréal, précisément. Patrick Burgan, il y a donc ce disque du Requiem, de votre Requiem avec Microcosmos et Loïc Pierre qui sort dans 2 jours. Dans le reste de votre actualité, vous intervenez aussi dans une galerie à Paris, la galerie Mathias Coulot. C'est une vidéo installation de Zulika Bouabdella. Et là, vous avez signé une pièce pour 8 violoncelles, enfin en tout cas qui est utilisée pour cette installation.
Tout à fait, oui, mais qui est utilisée pour cette installation. Alors, en fait, Zulika Bouabdella a entendu ma musique, je crois que c'est Henri de Marquette qui passait à France Culture et qui parlait justement de cet archipel des saisons dont on a parlé. Elle a beaucoup aimé, m'a contacté, donc m'a demandé l'autorisation d'utiliser cette pièce Dionysos pour son installation.
Alors c'est du 4 novembre au 22 décembre, avis aux amateurs. Entre-temps, le 29 novembre à Montpellier, l'ensemble Moravocis donne un certain nombre d'œuvres pour votre femme, notamment le Cantique des Cantiques. Et ce sera donc le 29 novembre. Vous participez à un colloque autour de la personnalité d'Henri Dutilleux le 9 décembre. J'imagine que c'est quelqu'un qui vous a beaucoup marqué.
Oui, on a une bonne correspondance et vraiment, on s'est vu souvent et il m'a beaucoup marqué, effectivement. Il a dit des choses tellement, tellement gentilles sur ma musique que c'est des choses inoubliables.
Et puis, grosse actualité de retour dans cette ville de Muret, à côté de Toulouse, avec un concert qui vous est consacré le 28 février, où l'on entendra de nouveau le Cantique des Cantiques. Et puis, les spirituels, ça, ce sont des poèmes tous écrits par des femmes.
Exactement. Ce sera interprété par le quatuor Méliade, quatuor vocal féminin, donc avec lequel j'avais créé le Cantique des Cantiques, et qui m'ont commandé une nouvelle pièce, ce cycle Les Spirituels. C'est un petit peu un hommage, si vous voulez, à la femme dans
du 4e siècle, exactement, avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours.
Exactement, voilà, de la Grèce antique, dans toutes langues confondues aussi. Là, elles sont pas mélangées comme dans Nativité. Chaque poème, évidemment, allemand, anglais, espagnol, latin, etc. Et donc, c'est un petit panorama, comme ça, de l'univers. Il y a même des poèmes très féministes. Il y a une jeune, elle est morte très jeune d'ailleurs, du 19e, Marie-Laure Grouard, qui dit, vous essayez de me museler, mais je crierai, est-ce qu'on peut empêcher la tempête de se faire entendre? Voilà, une femme qui dit, vous allez m'écouter. Donc, il y a des choses très, très très belle, très très touchante, jusqu'à un poème de Christine Boulanger, là, du 20e siècle, jusqu'à nos jours. Et donc, on a un projet de disque, bien sûr, avec ce quatuor extraordinaire. C'est le quatuor Méliade.
Quatuor vocal.
Quatuor vocal féminin. Elles sont prodigieuses. Elles ont des voix divines. Et puis, en plus, elles ont surtout aussi un tel travail d'ensemble poussé que lorsqu'elles sont ensemble, en fait, l'individualité de leur voix, qui transparaît quand elles ont des solos, se fond complètement, on dirait un jeu d'orgue, et donc c'est admirable, en fait, toutes les couleurs qu'elles peuvent donner à leur ensemble. Donc on a un projet de disque, bien sûr, avec ce cycle et le Cantique des Cantiques.
On va se quitter avec une de ces voix, précisément.
Exactement, l'une des chanteuses chante dans le Requiem.
C'est Marion Delcourt, et le Requiem de Patrick Burgan, qui paraît au disque dans 2 jours.
Thank you.
cet autre extrait du Requiem de Patrick Burgan par le chœur Microcosmos dirigé par Loïc Pierre que se referme ce portrait contemporain. Le disque paraît donc dans 2 jours, le 28 octobre, sous l'étiquette Clart. Merci Patrick Burgan d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous de m'avoir invité.
Merci à Flora Sternadel qui nous a aidé à préparer cette émission qui était réalisée par Patrick Lérisset avec ce soir à la technique Jason Taous. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau portrait. Ce sera mercredi prochain à 23h avec cette fois-ci le compositeur Gilbert Ami. En attendant, vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site de France Musique. Il est minuit sur France Musique. Nous retrouvons Anne Labrévée avec Anne Montaron. Bonsoir Anne.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.